l'affaire Epstein. Epstein, c'est pas un prédateur sexuel. Oui, donc il a été mis sur le vent de la scène parce qu'il y a eu effectivement des plaintes d'innombrables femmes, si je puis dire, qui étaient plutôt des très jeunes femmes, pour pas dire autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec un indicible bonheur que je vous accueille dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers un mot, une expression et aujourd'hui, un nom. Que vous avez beaucoup entendu ces dernières années, un nom charriant avec lui son lot de mystères, sachant que l'individu a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. S'est-il vraiment suicidé ou bien a-t-il été suicidé ? Le mystère demeure autour de notre client du jour, Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain, figure de la jet set, copain, semble-t-il, de Donald Trump. Il devait être jugé pour trafic sexuel de mineurs en bande organisée, procès qui n'aura pas lieu puisqu'il est mort. Mais une affaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets puisque le Congrès américain mène une série d'auditions sur le sujet. Bill et Hillary Clinton doivent d'ailleurs venir témoigner très bientôt. Nous, on se demandera globalement comment une telle ordure a pu sévir pendant si longtemps sans être inquiété. On demandera notamment des comptes à celui qui, entre 2002 et 2010, était chargé de le surveiller pour le compte du FBI. L'agent Cyril Lacarrière, qui pourrait faire partie des personnes ayant touché des pots de vin pour fermer les yeux. Pas du tout, avait déclaré Cyril devant la commission d'enquête du FBI, c'est juste que Jeffrey était un mec hyper sympa, toujours le mot pour rire, et moi je ne pouvais pas imaginer qu'il était à la tête d'un réseau, puisqu'il m'avait dit que toutes ses filles étaient ses nièces. Évidemment, avec le recul, je me dis que ça lui faisait beaucoup de nièces, des nièces slovènes, des nièces bulgares, des nièces polonaises. Quand je l'interrogeais sur sa vaste famille, il me répondait « I'm a citizen of the world, Cyril », et il me resservait du brandy. Alors, qui était vraiment Jeffrey Epstein? Qui étaient ses complices? Donald Trump est-il mouillé dans ce dossier? Et ce bon vieux Bill Clinton, dont Cyril a assuré la sécurité sur le tarmac du Bourget, preuve vraiment qu'il trempe dans toutes les affaires. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Mais non,
c'est pas vrai.
Mais si, Zoom
Zen. Non, attendez, on ne peut pas dire n'importe quoi, de dire d'inter. Il y a une part de vérité sur cette histoire du tarmac. Vous avez assuré la sécurité de Bill Clinton.
Sur le fait d'avoir croisé Bill Clinton sur le tarmac du pavillon d'honneur d'Orly.
Vous étiez dans la sécurité, dans les métiers de la sécurité à l'époque, Cyril.
Vous avez une photo avec
lui ? Allez.
Une photo, ils sont tous les deux.
Accueillons plutôt notre invité. Bonjour Virginie Villard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Virginie, vous êtes grand reporter pour l'émission Complément d'enquête sur France 2. En janvier dernier, vous avez réalisé un doc sur Jeffrey Epstein, 6 ans après son suicide présumé en prison. L'affaire rebondit. Donald Trump tente de faire oublier son amitié avec le criminel sexuel. Le Congrès, dominé par les Républicains, a ouvert une enquête. Allons-nous enfin tout savoir sur cette affaire tentaculaire? Quels sont les derniers mystères de Jeffrey Epstein? Vous allez tout nous dire. Juste le temps de vous présenter mes reporters à moi. Sachant qu'il n'avait pas réussi à élucider l'affaire dite de la disparition mystérieuse du support de laptop de Marie de Breuer l'année dernière, il y a peu de chances qu'il vous aide à démêler les fils de l'affaire Epstein, mais ils vont essayer. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour à tous. C'est vrai qu'on n'a toujours pas retrouvé le coupable.
Le coupable court toujours, certainement dans les couloirs d'Inter.
C'est fou d'avoir volé un support de laptop. Bon,
ouais. Après, ça peut être très pratique.
Oui, mais c'est vous.
Peut-être que je l'ai revendu.
C'est lui.
C'est Virginie Villard, direction ce que l'Amérique fait de pire. Quand on parle de suicide présumé de Jeffrey Epstein, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat 6 ans après.
C'est une question qui, en effet, hante toujours l'Amérique, parce que Alors, moi, au tout début de mon enquête, par exemple, quand je discutais avec mes rédacteurs en chef, ils me disaient, on peut aller regarder sur cette piste-là, est-ce qu'il s'est suicidé? Et moi, je me souvenais, je disais, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, parce que le ministère de la Justice avait été très clair en disant, c'est sûr, c'est un suicide, d'après l'autopsie, il n'y a pas de doute. Et en fait, en creusant, en allant au-delà des thèses complotistes, il y a des éléments troublants. Et moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet en rencontrant le frère de Jeffrey Epstein, qui a accepté de nous recevoir à New York. Et lui m'explique que au début, il n'avait aucun problème avec l'idée que son frère ait pu se suicider. Et il a quand même voulu faire appel à un médecin légiste indépendant, c'est-à-dire que c'est un médecin légiste qui a assisté à l'autopsie, mais c'est pas lui qui a fait l'autopsie. Il y avait le médecin officiel qui a fait l'autopsie, et donc il a pris Michael Baden. Michael Baden, c'est pas n'importe qui, c'est un médecin légiste très médiatique, très connu et très respecté aux États-Unis. Et à la sortie de l'autopsie, Michael Baden appelle le frère de Jeffrey Epstein, et il lui dit « Pour moi, ça ressemble beaucoup plus à un homicide qu'à un suicide. » Et là, le frère me dit, à ce moment-là, je ne comprends pas ce qui se passe, et il a commencé à s'interroger. En fait, Michael Baden, je vais essayer d'être rapide, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais il y a plusieurs choses qu'il remarque, qui l'interpellent pendant l'autopsie. Notamment des fractures au niveau du cou. au milieu du coup. Et Michael Baden dit, c'est pas le seul médecin légiste à le dire, que lors d'une pendaison, parce que Jeffrey Epstein a été retrouvé avec un drap autour du cou, il dit, lors d'une pendaison, vous n'avez pas de fracture de ses os autour de la pomme d'Adam.
Ah oui,
c'est pas rien. Et donc il dit, par exemple, l'os hyoïde est fracturé, c'est pas normal, parce que normalement, si vous voulez, quand on se pend, c'est plutôt en dessous du menton qu'au milieu du cou. Il dit, en revanche, Michael Baden, qui a beaucoup enquêté sur les suicides en prison, dans les prisons de New York, il dit, j'ai souvent vu ça lors de strangulations. Il a constaté aussi différentes choses qui l'ont perturbé. La médecin légiste officielle qui fait l'autopsie, il affirme qu'elle aussi est interpellée par ça. Sauf que, 3 jours plus tard, la chef de cette médecin légiste va dire « C'est un suicide, sans aucun doute,
façon,
circuler, il n'y a rien à voir. »
Face à vous, Virginie, c'est lui qui aurait dû, normalement, arrêter Epstein à temps. A-t-il été négligent ? A-t-il été corrompu ? Bill Clinton, qui viendra bientôt témoigner devant le Congrès que Cyril Lacarrière était un excellent agent de sécurité, puisque le jour où il a assuré la sienne sur le tarmac du Bourget, il ne s'était rien passé. Une chose est sûre, on ne retrouvera jamais son nom dans les fameuses Epstein Files, parce qu'à chaque fois qu'il se connecte à un ordinateur, il prend soin ensuite d'effacer toute trace de son passage, comme vendredi dernier, lors de notre déloc à Marseille. Hein. Cyril, il ne voulait pas partir avoir effacé sa session. Cyril,
déconnecter sa chaîne.
On n'efface pas une session, Mathieu. Je déconnecte.
J'arrive pas à fermer.
Cyril, à vous de nous raconter, vous qui l'avez un peu connu, Jeffrey Epstein, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez un homme qui se présente comme un génie de la finance, un ami des présidents, des profs de Harvard et des grands patrons de Wall Street, un ami des top modèles aussi, un homme de toutes les fêtes new-yorkaises et hollywoodiennes, mais un homme qui, derrière les portes closes de ses villas et de son île privée, cache un des plus grands scandales sexuels de l'histoire contemporaine. Son nom, on l'a dit, Jeffrey Epstein. Tout commence dans les années 80 à New York. Epstein n'a pas de diplôme, mais c'est un séducteur. Et c'est comme ça qu'il se rapproche de milliardaires dont il gère la fortune, des affaires qui vont faire sa fortune.
Mais c'est un autre business qui se met en place, Cyril.
Et c'est au début des années 2000 que Jeffrey Epstein a commencé à recruter des jeunes filles pour des massages. On dit massage et on met des guillemets, mais on apprend bien sûr qu'il s'agit de beaucoup plus que de simples massages. Ces jeunes filles sont très souvent mineures, ce qui lui vaut une première inculpation par la justice. En 2008, il plaide coupable en Floride pour sollicitation de prostitution avec mineurs. Il écope de 13 mois dans une prison aménagée. Un sacré bon deal négocié par un procureur qui deviendra plus tard membre de la première administration de Donald Trump.
Tiens.
Et c'est plus de 10 ans plus tard que tout bascule. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté donc à New York par le FBI. Il a 66 ans et il est accusé de trafic sexuel en bande organisée de mineurs. Il risque à ce moment-là 45 ans de prison. Un mois plus tard, il est retrouvé pendu dans sa prison. Et voilà le début de notre histoire, une histoire tentaculaire.
Merci Cyril. Virginie Villard, une histoire tentaculaire. En effet, que viennent faire les Clinton ?
Bill Clinton était un ami de Ghislaine Maxwell. À la base, c'est comme ça que Jeffrey Epstein rencontre Bill Clinton, parce que Ghislaine Maxwell...
Rappelons qui c'est, cette
pour nos auditeurs, effectivement. Donc Ghislaine Maxwell, c'est la fille de Robert Maxwell, un grand mania de la presse britannique. Donc elle est franco-britannique, d'ailleurs, et elle est très riche. Et à la mort de son père, elle a rencontré Jeffrey Epstein en 91. À ce moment-là, plusieurs experts vont raconter qu'il y a une sorte de relation un peu perverse qui va se nouer entre eux, c'est-à-dire qu'elle cherche un homme riche et lui cherche le réseau. Et Ghislaine Maxwell a un incroyable réseau, de par son père, ses relations, etc. Et elle est notamment, c'est elle qui va lui présenter le prince Andrew. C'est elle qui va lui présenter Bill Clinton. Et donc, il existe aujourd'hui, ce n'était pas un secret, des photos de Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et Bill Clinton. On sait que Bill Clinton a voyagé plusieurs fois à bord du jet privé de Jeffrey Epstein. Et donc, aujourd'hui, cette commission d'enquête aux États-Unis veut interroger les Clinton pour savoir quelle était la nature des liens qu'ils entretenaient avec le financier.
Je me tourne vers vous, Marie Debray. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous nous emmenez en Pologne.
C'est rare que je choisisse l'actualité polonaise, alors que j'adore la Pologne. J'ai été à Cracovie et j'ai adoré l'architecture, la culture. Et vous saviez qu'à Cracovie, il y a une place où tu peux acheter des tartines géantes. Ça s'appelle les Zapiekanka. Et c'est d'immenses tartoches de genre 30-50 cm pour les plus gourmands, sur lesquelles tu peux mettre jambon, champignons, fromage, tomates, bacon, ciboulot. boulettes, cornichons, ketchup, viande hachée, olives, poivrons, feta, œufs, roquettes, enfin, plein de trucs, quoi. J'ai vraiment adoré la culture polonaise. Mais rien à voir avec la choucroute, littéralement, puisque c'est rien à voir avec la choucroute, c'est des tartines. Mon sujet n'a rien à voir avec les tartines, mais ça a à voir avec Cracovie, hein. Je retombe sur mes pattes, comme un chat. Et là, je place l'univers du chat, car plus tard, je vous parlerai des chiens et de leurs pattes, bref. Dans les grandes villes polonaises, des adolescents en gilet jaune interpellent et filment des femmes dont ils jugent l'attitude ou la tenue trop provocante. Ils se sont appelés les Zone Patrol, ça se traduit par la patrouille anti-prostituée. Et franchement, se nommer la patrouille anti-prostituée alors qu'il n'y a plus de patrouille qui est juste sous votre nez, quoi, c'est quel dommage. Ils sont nuls en marketing, c'est chiant. Je n'insulte personne de chien, bien sûr, c'est rapport à la patte patrouille. Les chiens flics, et qui retombent sur leur patte. Oh là là, vous avez vu la pirouette, je suis un génie. Je t'aime, Marie. Non, c'est toi que j'aime, mais fais-moi un bisou. Cette histoire de patrouille anti-prostituée qui regarde comment s'habillent les femmes dans la rue, moi je trouve ça complètement débilos, voilà, parce que déjà, l'habit ne fait pas la prostituée. Enfin, j'ai des copines travailleuses du sexe qui se savent chez CEA, hein, voilà. Genre marinière manche longue, salopette en jean et tout, hein, pour faire du roleplay. Sexy Mousse fait son premier jour sur le catamaran du capitaine Hardcock. Non, je déconne. Personne ne se sape chez CEA. Les patrouilles anti-prostituées, c'est un phénomène qui a commencé cet été. Ces jeunes ados ont humilié des femmes en jupe dans des vidéos qui ont fait des millions de vues. Et alors, avec l'hiver qui arrive, va falloir m'expliquer comment qu'ils vont faire. Quelles fringues seront considérées trop provocantes? Je pose la question, y a-t-il des doudounes de chouin? Les doudounes motif léopard? Non, ça c'est juste du bon goût. Et moi je dirais que la doudoune la plus aguicheuse, si vous voulez mon avis, c'est la doudoune sans manches. Voilà, et je peux te dire que dans le quartier des affaires de Cracovie, il y a du businessman aguicheur, là, avec leurs petites doudounes toutes courtes, là, pour montrer leurs petits avant-bras à tout le monde. Oh, les mecs, ils se baladent avec le casque du scout, nonchalamment à la main, comme si c'était pas pour se faire reluquer, hein, avec le sac à dos Brains. Oh, c'est juste parce que c'est pratique et imperméable, ou c'est pour se faire mater dans la rue, hein. Bon. Trois femmes journalistes de la télévision publique polonaise ont décidé de prendre le contre-pied. Elles sont allées dans la rue pour distribuer des fleurs et des compliments aux gens. Oh. Et alors, c'est là que je suis vraiment française, et parce que ça m'agace presque autant que les gros misos. Voilà. Imagine Léa Salamé avec un gilet jaune floqué, patrouille de l'amour, qui me file une petite tulipe en me disant que je suis mignonne aujourd'hui. Ah, je crois que je préfère qu'elle me traite de grognasse. Après, impossible. Bah ouais, impossible en vrai que Léa Salamé se foute un gilet jaune sur les épaules. Personne ne sait si je suis de gauche ou de droite. Oui, Léa, tu es de droite. Il n'y a pas de galère. Psst, Marie, quoi, Marie? Tu te rappelles des tartines géantes à Cracovie? Ah ouais, avec du jambon, des olives, du fromage, du persil. Marie, des copeaux de parmesan, du pesto. Oula, pardon, c'est fini.
Merci, Marie Debreuer. À suivre, qu'est-ce que la République des juges? La réponse avec le constitutionnaliste Benjamin Morel. On ira dans la rue avec Quentin, bien sûr, et on discutera avec Bruce Toussaint de son dernier livre, Dites-lui que je pense à elle, le temps d'une petite pause musicale, Meule, entre deux sur France Inter.
Entre deux, un écran, des idées si douteuses, arrachées aux réels. France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Nicolas Sarkozy a-t-il été victime d'une cabale politique des juges ou bien tout ça, c'est du flan? Zoom cet après-midi sur la notion de république des juges avec le constitutionnaliste Benjamin Morel. Benjamin, depuis quand la justice se mêle des affaires politiques? Est-ce que longtemps elle n'a pas trop osé?
Longtemps, elle n'a pas trop osé. Elle n'a pas trop osé à la fois parce que ça ne se faisait pas, qu'elle considérait qu'elle n'avait pas à intervenir, à interférer dans des processus électoraux, et ensuite parce qu'il n'y avait pas forcément de base juridique. En fait, il y a un paradoxe actuellement. On a probablement, c'est pas populaire ce que je vais dire, mais on a probablement la classe politique la plus propre de l'histoire. Pas parce qu'on a des femmes et des hommes politiques qui sont particulièrement moraux, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, paradoxalement, le modèle marche bien. La multiplication des affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des juges qui osent et qu'on arrive à qualifier juridiquement les infractions, tant et si bien que si vous êtes un personnage politique et que aujourd'hui vous décidez d'être corrompu, il y a de très grandes chances que vous fassiez rattraper par la patrouille. Donc la multiplication des affaires, paradoxalement, est une preuve de bonne santé démocratique et d'un système qui marche plutôt bien. Dans les années 80, à la suite des affaires Urba, etc., on multiplie les lois qui ont une forme d'efficacité, les lois de moralisation, etc. Et donc aujourd'hui, on a un corpus juridique qui permet de qualifier et des juges qui ose. Et ça, ça a créé partout en Europe, mais un effet de... un investissement des juges dans la politique qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de ces affaires.
Et c'est le résultat aussi de plein d'autres choses. Par exemple, c'est vrai que Jacques Chirac avait été entendu, mais malade, vieux. François Mitterrand est mort quasiment 8 mois après la fin de son dernier mandat. C'est le premier, finalement, qui est rattrapé, jeune, en bonne santé, qui peut répondre, c'est ça aussi qui fait qu'on peut s'attaquer aux politiques aujourd'hui ou à un ancien président de la République?
Alors, il y a ça, c'est-à-dire qu'on a en effet un rajeunissement de la classe politique, on a un turnover beaucoup plus important, parce qu'avant, vous étiez pendant 40-50 ans dans la vie politique. Et l'autre élément, c'est qu'on a des faits qui, aujourd'hui, sont qualifiables, parce qu'en fait, les lois datent de la fin des années 80 et des années 90, pour les plus importantes. Et donc, ce qui s'est passé, qui n'aurait peut-être pas vraiment pu être qualifié de manière aussi facile dans les années 80-70, aujourd'hui, peut-être, on a une mutation également de la justice. Le PNF, le parquet financier, c'est une création relativement récente, avec des moyens, avec une capacité d'action. Là où un juge, dans les années 70-80, c'est un artisan. Il est tout seul face à une affaire gigantesque. Vous avez évidemment des pressions potentielles du politique face auxquelles il a plus de mal à résister. Donc on a une mutation de la justice, une mutation des normes sur lesquelles elle s'appuie, et de l'autre côté, vous avez qui plus est une mentalité générale qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, on peut y aller, on peut qualifier, on peut condamner.
Mais justement, c'est pas un peu paradoxal de voir les politiques aujourd'hui se plaindre de la justice alors qu'elle ne fait qu'appliquer les lois votées par le Parlement?
Il y a un grand paradoxe chez les politiques. C'est-à-dire que quand vous avez... C'est le paradoxe Fillon. Quand François Fillon dit lors de la campagne interne à LR, aux Républicains déjà à l'époque, qui verrait le général de Gaulle mis en examen et qui, quelques mois plus tard, est mis en examen et reste malgré tout candidat. C'est-à-dire que c'est tellement tentant quand vous êtes un politique de pointer le fait que votre opposant politique, c'est vraiment un pourri, qu'il faut lui, etc. Même si, pour le coup, l'affaire n'est peut-être pas existante, l'affaire est peut-être évanescente, il n'y a peut-être rien dedans. Souvenez-vous, l'affaire de Rugy, François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien.
L'affaire du homard.
L'affaire du homard. Il y a un homard, très bien, il a mangé du homard.
Il n'aimait pas ça, lui.
En plus, il n'aimait pas ça.
Il était allergique. Il était allergique et il avait soi-disant un sèche-cheveux en or qui s'est avéré ensuite ne pas être en or. Il n'y a absolument rien dans l'affaire de Rugy. Et l'ensemble de la classe politique tombe sur le dos de ce pauvre François de Rugy en disant c'est horrible, vous avez manger un homard, mais
avec
derrière...
Avec un sèche-cheveux en or.
Et derrière, c'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que quand vous voulez jouer les perles à morale et que le lendemain, vous vous retrouvez dans une situation où vous-même vous êtes pris dans une situation compliquée, tout d'un coup, l'opinion vous en veut. Le problème de François Fillon, c'est qu'après avoir joué le perle à morale, il s'est retrouvé la cuillère dans le pot de confiture, et ça, évidemment, ses électeurs ne lui ont pas pardonné.
Face à vous, Benjamin Morel, on n'est pas passé loin du drame vendredi à Marseille. La longue et belle histoire du complètement à la rue aurait pu se terminer par un complètement dans le coffre, qui aurait eu le mérite d'offrir à notre collègue Fabrice Rouel un savoureux numéro d'affaires sensibles, Quentin la bûche carbonisée. Heureusement, nous avons payé la rançon et vous voilà, Quentin, frais comme un gardon, prêt à nous présenter un nouveau micro-trottoir. Ouais. Donc mon maillot de Benjamin Pavard, sacrifié.
Allez, je suis devant le tribunal de Paris, cette fois, pas à l'historique sur l'île de la Cité, mais bel et bien au pied de ce bâtiment futuriste tout vitré qui borde le périph dans le 17e arrondissement. Ça bouillonne sur cette esplanade où une stèle est dressée à la mémoire de Robert Badinter d'ailleurs. Avant même que je lance l'enregistrement, cette jeune femme reconnaît le micro France Inter.
Bonjour.
En fait, vous nous connaissez.
Ben oui, Quentin.
Pourquoi?
Parce que j'écoute Zoom Zoom Zen, bien évidemment.
Qu'est-ce
que vous faites. On dirait que c'est faux. On dirait que c'est joué.
Je suis avocate, c'est peut-être pour ça que je sais jouer.
Elle découvre la notion du jour qu'on décortique dans Zoom Zoom Zen.
La République des juges, qu'est-ce que ça m'évoque ? Aïe. Pas grand-chose de positif.
Évidemment, elle me parle de l'affaire Sarkozy et du financement libyen. Elle n'est pas étonnée qu'il joue la carte, l'ancien avocat, d'un jugement qui serait politique.
Et ça ne m'étonne pas d'un avocat, d'ailleurs, d'avoir ce genre de discours, parce que forcément, on sait utiliser les rouages pour son propre intérêt, pour l'intérêt de ses clients, mais là, en l'occurrence, c'est clairement son propre intérêt.
Ça vous a amusé, la sorte de conférence de presse qu'il a fait à la sortie de la salle d'audience ?
Bah oui, évidemment. De toute façon, tout m'amuse hein, chez Nicolas Sarkozy. Bon, vous avez compris que j'étais pas forcément une fervente partisane oui. de ce personnage qui, pour moi, mérite ce qu'il mérite. Voilà. Pour moi, la justice a fait son travail et j'espère qu'elle le fera de nouveau, puisque évidemment, ça va pas s'arrêter là.
Lui, maintenant, inspire dans sa cigarette électronique. Un nuage de fumée parfumée s'échappe à chaque expiration. Nous parlons de la médiatisation de certaines affaires.
Alors, c'est pas médiatisé de la manière dont j'aimerais. En mettant même de côté le politique, les récentes condamnations de personnalités politiques, mais on l'a vu avec l'affaire Lola, ça prend des tournures politiques, alors que l'immonde crime qui avait été commis n'était même pas, lui, d'une volonté politique.
Je lui demande ce qu'il aimerait, lui.
Parfois, j'avoue que j'aimerais qu'on rappelle un petit peu plus la présomption d'innocence. J'aimerais bien qu'on arrête de parler du présumé violeur, ou du présumé coupable, ou présumé ce que vous voulez, qui est en fait de la contre-présomption d'innocence. Mais la volonté de tout savoir est une question, je trouve, que les médias peut-être parfois devraient se poser. Parce que entre tout savoir et être informé, excusez-moi, les liaisons sont dangereuses, je trouve qu'il y a parfois une limite entre le voyeurisme et l'information qui me questionne par moments. Parce que quand on cherche à montrer certains aspects d'une affaire, peut-être qu'on commence à en faire du politique.
Ce jeune homme maintenant, costume impeccable, barbe soignée, nœud de cravate qui tombe parfaitement, il découvre...
La République des juges. Oui, évidemment, je pense que vous faites référence au procès Sarkozy. Ah, c'était une peine excessivement lourde, c'est vrai, parce que c'était la peine maximale qui avait été requise et qui a été appliquée. Après, il ne faut pas oublier qu'il est tenu à un devoir d'exemplarité et que là, en l'occurrence, il y avait... différentes thématiques qui avaient attrait à la sûreté de l'État, et c'est pour ça aussi qu'il y avait un devoir d'exemplarité. Et souvent, justement, c'est ces mêmes personnes qui ont eu également ce rôle de législateur qui demandent de la fermeté. Là, en l'occurrence, il y en a eu, donc je vois pas où est le mal.
Il me glisse qu'il a d'ailleurs assisté lui-même à la dernière audience du procès.
C'était assez apaisé, c'était monsieur Djoury qui parlait, il y avait monsieur Nicolas Sarkozy, monsieur Brice Hortefeux et également Claude Guéant, et c'était assez décontracté étonnamment comme ambiance. C'était à la fin et je pense que tout le monde avait relâché la pression.
Ça ressemble à quoi ce genre de moment ?
C'est inoubliable, moi qui suis jeune avocat, vraiment j'ai eu la chance que je m'étais faufilé après une audience perso et c'était vraiment, enfin je l'oublierai jamais. Hein.
Je lui demande ce qu'on répond à celles et ceux qui mettent en doute la neutralité de la justice en France, surtout après ce genre d'affaires.
Simplement qu'il faut arrêter de faire parler ces affaires. Fait qu'on est dans un état de droit et que l'état de droit justement il impose qu'il y ait des lois qui s'appliquent à tous et justement de s'informer et pas uniquement écouter les pressentiments, les amis ou lire précisément, je les invite à lire la décision qui est parfaitement claire et audible pour tous.
Combien de pages ?
324, il me semble.
Bon, je me demandais comment j'allais m'occuper la semaine prochaine pendant les vacances. Je vais me lire tranquillement le compte-rendu de la décision. 380 pages, exactement. Dernière rencontre, ce monsieur à la moustache relevée de chaque côté, qui lui donne un petit côté 19e.
Ce n'est pas de savoir s'il existe une république des juges, c'est qu'il existe une république parce qu'il existe des juges.
Bam ! Et voilà, ça, ouais, on y va sur la punchline. Est-ce que cette défiance vient de la médiatisation, des débats qu'il provoque ?
Pour ce qui est de la médiatisation, je vous rappellerai la phrase de La Rochefoucauld qui disait « Quel est cet catin qui est la clameur publique qui rentre dans la salle d'audience qui fait sortir la vérité par la fenêtre ?»
Et c'est peut-être là, entre la clameur publique et la salle d'audience, que naît cette fameuse République des juges dont tout le monde parle, un pays où la justice s'écrit autant dans le code pénal que dans le vacarme du dehors.
Vous qui aimez le côté déconne de Zoom Zoom Zen, vous allez être servi puisqu'on va parler féminicide avec notre invité Bruce Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, présentateur de Bonjour, justement, la matinale de TF1. Si on vous invite aujourd'hui, c'est pour votre dernier livre. Vous avez vu comme j'ai baissé la musique tout de suite. Habilement, dites-lui que je pense à elle, qui vient de paraître chez Stock, un livre très personnel, comme le précédent qui était consacré au deuil de vos parents. Dans ce dernier livre, vous racontez l'histoire de votre cousine assassinée il y a près de 40 ans maintenant. Un féminicide, qu'on appelait à l'époque encore, malheureusement, crime passionnel. Comment vous découvrez ou redécouvrez cette histoire ?
C'est-à-dire que j'avais toujours ça un peu au fond de moi, et puis quand moi j'avais j'étais très proche de ma grand-mère. J'avais une grand-mère géniale, un peu, que je compare d'ailleurs à la grand-mère de la Boum, un peu rock, un peu marrante et tout ça, et qui a beaucoup compté pour moi. Et quand elle est décédée, il y a une dizaine d'années, effectivement, c'est ce que je raconte dans le livre, j'ai retrouvé voilà, des archives, des trucs un peu, des papiers, et il y avait des coupures de presse. Mmh. Et notamment, un article de journal qui racontait ce qui était arrivé à cette Nathalie, qui était ma cousine, mais dont j'étais pas ultra proche, hein, pour être tout à fait honnête. Mais d'un seul coup, quand j'ai vu cet article, je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'intéresser à ce truc-là.
Qu'est-ce qui vous a surpris en découvrant les articles de presse ?
En fait, ce qui est d'abord dur, c'est les circonstances. Là aussi, je voudrais pas plomber l'ambiance l'après-midi sur France Inter. Mais bon, les circonstances sont assez terribles. C'est une môme de 14 ans qui est assassinée par un type de 29 ans, qui était tombé amoureux d'elle et qui comprenait pas qu'elle se refuse, même si elle faisait un peu plus que ses 14 ans. Bon, il y avait une histoire d'amour impossible. Et lui, en fait, et c'est là où on tombe exactement dans tous les codes du féminicide, s'est dit, elle veut pas, je la tue. C'est comme ça. Il n'y a aucun mécanisme intellectuel, psychologique qui se met en place pour que ce truc n'ait pas lieu. C'est ça, moi, qui m'a fasciné. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Parce que le garçon est pas... c'est un type plutôt instruit, c'est pas... c'est ça aussi qui m'a dérangé. Je me suis dit, mais comment rien n'est arrivé pour empêcher l'horreur.
Et à l'époque, on parle de ce fameux terme qui a été beaucoup repris après, de crime passionnel.
C'est ce qui est raconté dans les journaux. Mmh. Et qu'est-ce que ça dit, le crime passionnel ? C'est un truc de fou, en fait. Et ça a été utilisé pendant des décennies. Mmh. Je raconte que c'est la presse qui a inventé ce terme. Ça dit, au fond, qu'un type tue, oui, mais parce qu'il était amoureux.
Une petite circonstance atténuée.
Donc, bon, il était amoureux, donc le dépit amoureux, c'est quand même terrible, parce qu'il n'y a pas d'excuse. Je suis désolé, il n'y a rien qui justifie d'enlever la vie à une jeune femme et avec une telle atrocité.
Mais il y a quelque chose qui est invraisemblable aujourd'hui, quand on regarde avec le recul du temps, c'est de se dire qu'à l'époque, il y a comme des statistiques déjà. Enfin, vous voyez bien que ces fameux crimes passionnels, c'était très rarement, peut-être je sais pas, 1% des cas, une femme qui tue un homme. Ça n'arrive pas dans ce sens-là, c'est des hommes qui
tuent. C'est très juste. Et vous savez, il y a un moment, bon, parce que j'ai un peu mené l'enquête pour ce bouquin, j'ai rencontré notamment une directrice des archives départementales en Seine-Maritime, qui m'a raconté une chose que je trouve effarante, et qui dit beaucoup de choses, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément de familles qui font rouvrir les archives judiciaires, pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé dans leur clan, dans leur famille. Pourquoi ? Parce que le nombre d'histoires de femmes dont on a dit « Ah, elle a été un peu folle. » Et puis, elle a été assassinée, mais elle a été... ou alors elle s'est jetée d'un pont, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de féminicides qui ont été maquillés, il faut dire les choses, en d'autres termes. Et aujourd'hui, grâce à ce mouvement qui existe depuis quelques années, les familles essayent d'avoir la vérité, de connaître la vérité, et c'est très important, je pense, de savoir d'où on vient, ce qui a pu arriver à notre mère, notre grand-mère.
Et justement, avant sa mort, son compagnon Alfred l'a violée, l'a harcelée, mais vous dites qu'à ce moment-là, ni la famille, ni l'entourage ne mesurent la gravité de la menace. Ça veut dire qu'elle n'en a pas parlé, ou qu'on ne mesurait pas à l'époque cette notion d'emprise ou de toxicité ?
Si, elle en parle, les parents réagissent, ils sont extrêmement choqués, bien sûr, mais à l'époque, par exemple, porter plainte pour viol, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je cite un chiffre, au début des années 80, 3000 plaintes pour viol par an. Aujourd'hui, c'est 200 000 plaintes pour viol par an. Et on est encore peut-être loin de la réalité. Donc à l'époque, les mécanismes judiciaires, policiers, ne se mettent pas en place. C'est ça le problème.
L'avocat de la famille était pas mal. Il avait une phrase hyper moderne pour l'époque. Il définit en fait ce qu'est un féminicide. Oui. Il dit « Vous avez tué Nathalie comme on brise un jouet quand on ne veut plus s'en servir pour qu'il n'appartienne à personne d'autre. »
C'est une très bonne définition en effet du féminicide. Mmh. C'est-à-dire que l'homme considère que la femme est un objet. Là, il dit pas objet, il dit jouet. Mmh. Et donc, le jouet ne veut plus jouer le jeu. Et donc, on le casse, on le brise. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une très bonne, je trouve, une très bonne métaphore, mais ça n'a eu aucun effet sur les jurés.
Merci Bruce Toussaint d'être passé nous voir. Le Zoom Zoom Test est en approche, un Zoom Zoom Test spécial Gen Z 212. On parlera audiovisuel public avec l'ancienne patronne d'Inter, et Manon nous emmènera dans la fabrique des masculinistes de gauche, car oui, ça existe. C'est juste après Amore, Last Maria on Earth sur Inter. ¡Gracias!
sola en el mundo. Habla en voz alta de mis asuntos. Discuto, doy patadas al aire. Lo soluciono, paz en el mundo.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Certaines personnes ont le sang de la révolte dans les veines. Louise Michel au 19e, Che Guevara au 20e, Pierre Courade au 21e, Pierre qui, non content d'avoir lancé la révolution du cornichon pour dénoncer la réservation de tables en terrasse, est également le père du mouvement Luigi, Ligue universelle de l'inexistence de la gastronomie italienne. Ce quiz sera donc consacré au mouvement. Oui, c'est Luigi, ça donne Luigi, c'est fort. Ce quiz sera donc consacré au mouvement de contestation les plus étonnants de l'histoire. Jouons au Zoom Zoom Test, un quiz qui démarre une fois n'est pas coutume, non pas aux États-Unis, mais dans un de ces trois pays que Cyril confond toujours entre eux et qu'il regroupe sous l'appellation parapluie de pays des Vikings, la Suède. Nous sommes en 2013. Quentin vient couvrir l'Eurovision à Malmö pour France Bleu Basse-Normandie. Arrivé en gare de Stockholm, il constate que les conducteurs de train hommes portent tous des jupes. N'étant pas encore l'homme déconstruit qu'il est devenu sur France Inter, il est d'abord choqué. C'est dingue, les Vikings sont devenus des drag queens. Emoji petit bonhomme penché de rire, écrit-il à son fidèle ami Polo. Très vite, cependant, Quentin est soulagé. Si les conducteurs de train suédois portent la jupe, ce n'est pas par fantaisie wokiste. C'est en signe de protestation. Mais contre quoi ? Les inégalités de salaire entre hommes et femmes ? Les congés paternité plus courts que les congés maternité ? Ou l'interdiction du port du short par forte chaleur ?
B.
A.
B.
A.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
A et B.
Oh, vous êtes si nuls. C'était la réponse C.
Mais non.
Et oui, en 2013, il n'y a pas que Quentin qui n'est pas encore déconstruit, la Société ferroviaire nationale suédoise non plus. Confrontés à une vague de chaleur sans précédent, les conducteurs de train avaient demandé à pouvoir venir bosser en short. La réponse de la direction fut aussi nette que celle de Laurence Bloch qui avait croisé Ghislain Fontana, notre réalisateur babacool, dans l'ascenseur. Le short, c'est niette. C'est d'ailleurs comme le pantacourt, comme les Birkenstock. Ghislain en avait tiré des conclusions, non pas en enfilant un pantalon et des chaussures fermées, mais en passant aux 2/5 en télétravail pour ne plus jamais recroiser Laurence Bloch. Les Suédois, eux, avaient protesté en remplaçant le short par la jupe. Mais attention, top. La prochaine question nous entraîne dans la Russie de 1704, gouvernée d'une main ferme mais juste par le tsar Pierre le Grand, qui justement revient d'un petit voyage en Europe avec une idée qui ne va pas du tout plaire à certains de ses sujets. Une mesure extrêmement impopulaire vis-à-vis de certains Russes, dont Féodor Lakariev, tenancier de l'établissement nocturne Prostitutskaya Paradisov. Oh, mais... Féodor Lakariev, lointain ancêtre de la branche slave de notre rédacteur en chef, entre en résistance aux côtés du peuple contre le tsar en raison de cette mesure qu'il estime injuste. Cette mesure, c'est quoi ? Un impôt exceptionnel sur la barbe, parce que le poil, c'est ringard à l'ouest ? Un impôt exceptionnel sur le chiffre d'affaires des maisons closes, le Prostitutskaya Paradisov faisant 100 000 roubles par soir, ou un impôt sur la vodka ?
Ah, la barbe.
Est-ce qu'il y a plusieurs réponses ?
Oh, mais il n'a pas le droit de te dire.
Non, j'ai pas le droit de vous dire. Déjà, Manon a dit une énormité.
B,
comment voulez-vous qu'il y ait un impôt sur la barbe ?
Mais je sais pas.
Ça n'a pas de sens, Manon.
B et C, peut-être les deux.
Allez, B et C.
Dans le même établissement.
Vous le tentez, Quentin ? Ouais, vous le tentez ? Oui. Vous croyez en vos rêves ?
Oui.
Eh bien, parfois, ça paye. Et parfois pas. Bonne réponse de Manon Mariani, oui ! Revenu chamboulé d'un séjour en Europe où la mode est au menton glabre, le tsar Pierre le Grand décide d'interdire la barbe car il trouve ça ringard. Il va donc faire payer un impôt à ceux qui veulent la garder, proportionnellement à leur rang social. Il ira même jusqu'à poster des barbiers aux portes de Moscou pour raser tous les nouveaux arrivants. Mesure très impopulaire en raison du caractère quasi religieux de la barbe en Russie, engendrant un mouvement de protestation rentré dans l'histoire comme la révolte des barbus. 400 ans plus tard, c'est en hommage à son courageux aïeul que Cyril arbore toujours une barbe drue et vigoureuse. Mais attention, on remonte dans l'Orient Express du Gai Savoir, direction Pondichéry. Nous sommes en 1930 et il y a des chances que même vous, Manon Quentin, vous en ayez entendu parler au détour d'un trivial poursuite ou d'un apéricube, la Grande Marche de Gandhi. Oui, la Grande Marche de Gandhi, it rings a bell quand même. Oui. Alors je n'ai même pas besoin de vous proposer trois options. Hein. Non, vous allez pouvoir répondre facilement à la question qui suit. Toute simple, pourquoi donc Gandhi et des dizaines de milliers de ses partisans ont fait 400 km à pied en 30 jours depuis son ashram jusqu'à l'océan Indien ?
Je vois, pour réfléchir.
Bon, alors.
Meilleure
pour
réponse.
Prendre le temps de la réflexion.
Bah oui,
alors,
c'est
j'ai
ça.
Une information pour
ça
vous en régie.
C'est la slow life.
J'ai une information
voilà.
pour vous en régie, et ça risque de vous coûter vos postes respectifs.
Oui, bien sûr.
Ça a déjà été dit dans le Douce Assort. Le Douce Assort.
D'aujourd'hui ?
Ah oui, non, ok.
Il y en a eu 400, c'est bon.
D'aujourd'hui. Alors, je vous donne. Bon. la marche, la grande marche de Gandhi, c'était pourquoi ? Pour protester contre la hausse.
Juste nous humilier,
contre
c'est
la
fou, hein.
hausse des prix du cheese nan.
Oui, bah bien. Si mais c'est honteux.
Pour protester,
c'est honteux, c'est
pour protester
bon.
Contre le monopole du sel instauré par les Anglais. Ou pour protester contre la nourriture anglaise que la couronne britannique voulait imposer dans les cantines indiennes.
B, j'ai dit avant. Non, j'ai dit avant.
A et B.
Oh,
A et B.
Manon, n'essayez pas de vous débattre, c'est Quentin qui a donné la bonne réponse plus vite. Mais réponse B.
C'était moi.
Une histoire qui ne manque pas de sel, aurait déclaré Pierre Courade en la découvrant au dos d'une carte de Trivial Poursuite un soir qu'il trichait avec des amis. Oui, après la mise en place du monopole de la récolte et de la vente de sel par les Anglais, Gandhi se tapera 400 bornes pour rejoindre l'océan et recueillir symboliquement du sel de mer dans ses mains et inciter ses compatriotes à entrer en résistance, un acte de désobéissance qui, renforçant la confiance du peuple indien, marquera un tournant majeur dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde, proclamée 17 ans plus tard. Quant au cheese nan, son prix n'a pas pu flamber en Inde en 1930 pour la simple et bonne raison qu'il a été inventé en France, à Paris, dans les années 90, et que même encore aujourd'hui, la vache qui rit n'est même pas encore arrivée à Calcutta. Défaite de la culture générale et victoire. ils sont dépités,
j'adore,
ils disent 1-1.
Ah bah voilà, 1-1, bah ouais, bon bah victoire de nous deux.
Allez, après je pense qu'ils ont quand même réfléchi pendant la marche, donc je pourrais avoir un demi-point là-dessus. Oui.
Un demi-point, ouais. Faux. Bonne réponse de Quentin qui remporte le quiz. Oh, oui, c'est bien joué. Bonjour Laurence Bloch.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour.
Et toutes, bonjour.
Laurence, vous êtes la seule femme à avoir gravi tous les échelons de Radio France, de stagiaire jusqu'à directrice des antennes et de la stratégie éditoriale. Vous avez été directrice adjointe de France Culture, puis directrice de France Inter entre 2014 et 2022. Vous avez donc dernièrement été mandatée par Rachida Dati pour définir les bases d'une holding entre France Télévisions et Radio France. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Radioactive qui vient de sortir chez Stock. Un retour sur votre histoire et une réflexion aussi sur l'avenir de l'audiovisuel public. Vous parlez de l'énigme Macron. Vous revenez sur la phrase qu'il aurait prononcée. L'audiovisuel public, c'est la honte de la République. Est-ce que vous avez pu en discuter de ça avec lui ? Est-ce que vous avez su s'il avait vraiment prononcé cette phrase ?
Jamais.
Mais vous pensez qu'il a vraiment une défiance envers l'audiovisuel public ? C'est rien que le nombre de fois qu'il est venu sur Inter pour un président de la République, surtout qu'Inter est devenu vraiment la première
c'est
radio de France de loin.
C'est pareil pour des journaux comme Le Monde, j'en parlais avec des amis du Monde, il est venu très peu sur Le Monde, je pense que quelque part il a, après tout c'est son choix, il est président de la République, mais je pense qu'une parole forte du président sur l'audiovisuel public aurait, comment dire, calmé, apaisé beaucoup de craintes sur une possibilité de réorganisation et que la suppression de la redevance en un claquement de doigts n'a pas aider non plus les choses.
Quand vous revenez dans votre livre, Laurence Bloch, sur l'affaire Guillaume Meurice, vous n'étiez plus à la tête de la station à ce moment-là. Comment vous avez vécu ce moment ?
Comme tout le monde, de façon très difficile. Le pays, il faut se souvenir dans quel état était le pays. C'était 3 semaines après les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. Donc, mais je pense que le pays était à côté de lui-même. Et aujourd'hui, je pense que si Guillaume faisait cette blague, il n'y aurait pas ce déferlement
d'émotions. Donc c'est une question de timing pour vous.
Je le dis vraiment, je pense que ce n'était pas le bon moment. Charline elle-même a dit que ça n'était pas forcément le bon moment. Guillaume est resté sur ses positions.
Est-ce que justement aujourd'hui l'humour politique est menacé et comment le préserver, le protéger ?
Tout ce qui est saillant, me semble-t-il, tout ce qui a du caractère, tout ce qui a du tempérament est menacé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une chaîne comme Inter est une chaîne très importante. C'est pour ça qu'une chaîne comme une maison comme Radio France est très importante, parce qu'il y a une liberté d'expression totale. Alors après, c'est vrai que quelque part, j'ai infiniment d'affection pour Guillaume. Et il avait un talent exceptionnel. Mais il faut savoir aussi que quand on travaille dans l'audiovisuel public, tous les auditeurs se valent. Et il faut pouvoir dire, pas d'excuses, des regrets, dire... Je regrette d'avoir blessé des auditeurs. Et puis après, on passe à autre chose. Guillaume, à aucun moment, il a été question de relire ses papiers. À aucun moment. Guillaume préférait être guillotiné plutôt que de dire qu'il regrettait. Voilà, pour lui, c'est un moine soldat de l'humour. Et je le regrette parce qu'il y avait beaucoup de talent, mais la maison ne pouvait pas faire autrement que de s'en séparer.
Il faut aussi comprendre le monde dans lequel on évolue, les rivalités qu'il y a aujourd'hui, notamment le groupe Bolloré qui nous attaque, qui prend des extraits parfois de chroniques humoristiques et qui les diffuse au premier degré, qui peut semer la confusion chez les gens qui découvrent des extraits. Donc il faut se préparer à ça. Mais ça veut dire que l'humoriste doit intégrer le fait que ça peut être récupéré. Ça peut être compliqué.
Il ne doit rien intégrer du tout.
Dans ces conditions.
Je pense qu'il faut qu'il garde la bonne distance. Je pense qu'il faut qu'il tape sur tout le monde. Je pense qu'il faut qu'il fasse son boulot. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il se laisse tourner la tête par le succès. Voilà. Mais il ne doit rien intégrer du tout, l'humoriste. Voilà. Je pense que simplement, ce qui serait assez chouette, formidable, nécessaire, légitime, c'est qu'il y ait tout de même un certain nombre de gens qui prennent conscience que sans l'audiovisuel public, le pays ne sera plus le même. Voilà. Mais c'est pas aux humoristes à porter ça.
Qu'est-ce qui fait que le service public est si important à vos yeux, s'il fallait le résumer? Le livre porte là-dessus.
Je vais vous dire, parce que sa première bataille, c'est la bataille des faits. C'est la bataille des faits, c'est la bataille du réel. Et c'est pas la reconstruction du réel, c'est ce qui est. Je pense que ça, c'est partagé avec tous les grands groupes, TF1, M6, BFM. Mais le plus du service public, c'est que quelque part, personne ne distribue autant d'outils pour que les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine sociale, réussissent à se retrouver dans un monde qui est quand même très compliqué, très bousculé, très difficile, et que ça, c'est un facteur d'équilibre indispensable. Personne ne fabrique des podcasts pour les enfants comme le fait le service public. Personne ne travaille sur la souveraineté culturelle comme le fait le service public. Le jour où il n'y a plus de service public, les artistes français n'auront plus de voix. Donc c'est en ça que je considère que c'est vraiment un facteur d'équilibre, d'émancipation, de souveraineté culturelle et, je le dis, d'égalité. Parce qu'il y a, je le répète, l'héritage financier et l'héritage culturel, et c'est l'audiovisuel public qui continue ce que fait l'école.
On parle, mais que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Rien de bien intéressant, c'est que des écervelés qui se pignolent sur du vide, selon Cyril Lacarrière. Beaucoup de choses passionnantes, selon Manon, qui, elle, n'est pas née sous René Coty, ça aide. Manon, aujourd'hui, vous nous faites découvrir des influenceurs fitness, mais alors très loin des stéréotypes.
Ils sont grands, ils sont forts, ils poussent de la fonte et ils ont des muscles à des endroits totalement improbables. Depuis quelques années, les influenceurs fitness ont envahi les réseaux sociaux. Le premier youtubeur de France en est même un, Thibaut InShape. Ces hommes se filment principalement à la salle de sport, dans des vidéos qui sentent la testostérone, la transpiration et surtout la virilité à l'ancienne. Car c'est ça qu'ils mettent en scène, cette masculinité intense, censée faire rêver les femmes et surtout censée les dominer. La majorité de ces gyms bros, comme ils se surnomment, font partie des mouvances masculinistes et se définissent comme des mâles alpha sur les réseaux. Leur plus célèbre représentant est ce cher Andrew Tate qui dit des choses comme « Si tu trouves qu'être gros est acceptable, tu ne vas jamais rien faire de ta vie ». Et comme Tate, ces influenceurs fitness sont devenus de véritables caisses de résonance politique. La plupart sont d'ailleurs des républicains pro-Trump affirmés. Et il ne faut pas minimiser leur importance. Ils ont des millions d'abonnés et s'adressent à des jeunes hommes en quête de repères et de modèles.
Et leur vote est très important pour Trump.
Oui, on l'a vu aux dernières élections, les jeunes hommes ont massivement voté pour le candidat républicain, quasiment 60% contre 40% pour Kamala Harris. Ils sont donc devenus une cible à séduire. Et les démocrates l'ont bien compris, ils ne peuvent plus les laisser à la merci des influenceurs fitness masculinistes. Du coup, ils ont décidé d'investir le secteur avec les leftistes gym influenceurs, les influenceurs fitness de gauche. Oui, ça vous fait sourire,
ah oui.
Mais ils sont de plus en plus nombreux sur TikTok et Instagram. Ils reprennent les codes de ces gyms bros, ils se filment en train de faire du sport, mais ils prônent des valeurs opposées comme la cohésion sociale, défendent les droits des minorités et surtout tentent de déconstruire les jeunes hommes qui sont rentrés dans les sphères de l'extrême droite.
What the online right has done though is convince you that you are an alpha male that deserves respect and a virgin wife.
Ce que la droite a fait, c'est de te convaincre que tu es un mâle alpha à qui on doit le respect et qui doit se marier avec une vierge. Ça, c'est du bullshit. Lui par exemple, c'est Colin Davis, 55 000 abonnés sur Instagram. Il fait partie de cette nouvelle mouvance. Il a dit aux médias Wired qu'il recevait énormément de messages privés de mecs, je le cite, qui aiment la randonnée, soulever de la fonte, boire de la bière, manger des burgers, mais qui veulent aussi que les gens aient une foutue couverture santé. Et il n'est pas le seul. Le média ouzbek Erika parle aussi de The Swoletarias, non-toxique masculinité, Josh Kennedy, qui produisent des contenus sur le même modèle.
Et ils sont payés par les démocrates, ces leftistes ou pas?
Eh bien, ce qu'on sait, c'est que deux d'entre eux ont révélé aux médias avoir effectivement été payés par un membre du Parti démocrate pour produire du contenu. Ils parlent de contrats à hauteur de $10 000 et ne veulent pas révéler leur identité. On peut supposer qu'ils n'ont pas le droit ou qu'ils ne veulent pas desservir leur cause. Alors, d'après leur contrat quand même que le média a pu consulter, il s'agirait d'un programme pilote orchestré par le Parti démocrate dans le but de produire du contenu politique progressiste sur les réseaux qui doivent défendre des valeurs de gauche, une sorte de projet secret qui n'a pas non plus l'air très très au point. Les démocrates sont tellement à la traîne qu'ils sont prêts à tout pour regagner la confiance des jeunes hommes, notamment à l'approche des élections de mi-mandat qui ont lieu l'année prochaine. Et puis la manosphère est même maintenant au gouvernement. Pete Hegseth, le secrétaire à la défense des États-Unis, a dit la semaine dernière que les soldats américains étaient gros et a lancé un challenge fitness sur les réseaux. En réponse, des élus démocrates ont eux aussi commencé à se filmer dans les salles de sport. Qui aurait pu penser que pousser de la fonte de deviendrait un jour un sujet aussi politique.
Merci Manon, on a un bodybuilder de gauche dans l'équipe, c'est Ahmed Sparrow. Pour 10 000, tu l'as fait la story, toi, pas de problème.
Pour 10 000, j'en fais deux.
500, ça
évidemment. Laurence Bloch, sans rire, la montée du masculinisme, on en parle malheureusement assez souvent dans cette émission, c'est un vrai sujet de société, c'est quelque chose qui fait peur.
Je pense que la peur n'aide jamais. Donc il faut résister, il faut avancer, il faut faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et puis il faut se préserver un peu de ce truc-là, les réseaux sociaux.
Oui, Manon, mais le problème, c'est que Manon, c'est son boulot.
Moi, j'ai une autre question à vous poser. C'est quoi ce pignoler?
Ce pignoler, c'est pas très joli, hein, Laurent.
Bah, c'est ce que vous venez de dire.
Oui. Mais c'est parce que c'est dans la bouche de Cyril.
Allez-y, c'est quoi?
Ça fait référence à l'onanisme, tout simplement, Laurent. À l'onanisme. Oui, mais ça, c'est Cyril qui utilise des mots comme ça en antenne. C'est vraiment dégoûtant.
C'est vous?
C'est vraiment dégoûtant. Oui, c'est moi qui l'ai dit parce que je répercutais des propos de notre rédacteur en chef. Imaginé par moi, évidemment, c'est mon métier. Lui, il était très à l'aise vendredi à Marseille. Trop, peut-être. Communion avec ses fans, blaguant avec le dircom de l'Olympique de Marseille. Plus tard dans la nuit, claquant des bises au parrain de la DZ Mafia. À mon avis, on a encore beaucoup de choses à découvrir concernant les multiples vies d'Ahmed Sparrow. Bonjour Ahmed.
Bonjour, oui, ce week-end m'a pas mal fatigué, vous entendez ma voix?
Oui. La chronique d'Ahmed Sparrow, c'est juste après Manu Chao. Tout est vaste sur Inter.
Vivir sin ti et vivir muriendo. Vivir así, no lo recomiendo. Y así que así, yo sigo insistiendo. Vivir sin ti et morir queriendo. Cuando tú te vas. Clavarme pinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar para ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme pinas.
L'amour la m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes au cou. Malgré le love, j'ai mis de la distance, de la distance.
Quando tu te vas. Quando tu te vas. Vivir sin ti es salir corriendo. A por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento. Vivir sin ti como un casamiento.
Ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi que tu t'aimes,
je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. L'amour là m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes.
Zoom Zoom Zen, le florilège, Mathieu Noël sur France Inter.
Place à Ahmed Sparrow, l'homme que même Bolloré n'a pas réussi à faire taire, mais que France Inter hésite encore à laisser parler.
Bonjour tout le monde, bonjour. Alors bon, je suis un peu fatigué dû à mon week-end. Hein. On était à Marseille avec toute l'équipe de Zoom Zoom Zen. Franchement, c'était cool. Hein. On a eu des super invités, Pavard, Youssoufa, Jocelyne Berroir. On a dîné entre collègues dans un restaurant que Cyril Lacarrière a choisi. Hein. Où t'avais le choix entre du porc et du jambon. Je lui en veux pas, non. Il est resté sur les menus des années précédentes. Mais c'est vrai que maintenant, il y a Merwan, il y a moi. Donc on peut dire qu'il y a de plus en plus de chroniqueurs d'origine vegan. Mais ce petit voyage m'a fait comprendre une chose. Les gens de France Inter, après deux verres, ils veulent s'embrouiller avec toute la Terre. Alors bien évidemment, quand je dis les gens de France Inter, je ne vise que Pierre Courade.
Ah oui.
Pierre Courade, c'est Astérix quand il boit. Tu lui donnes un peu d'eau. C'est comme Gizmo, faut pas lui donner de à boire après minuit. Bon, assez parlé de nous, parlons de vous, Laurence Bloch. 50 ans de radio, moi je dis bravo. Ouais. Moi ça fait un an que je suis là, il y en a, je peux plus me les voir. Vous avez fait de France Inter la première radio de France, donc forcément la radio la plus détestée par l'extrême droite. Et depuis que je suis ici, j'ai jamais eu autant de commentaires racistes. Avant, moi j'étais invisible par eux, c'est vrai. J'étais dans mon coin tranquille avec mes potes, mes arabes, mes noirs. noirs en train de profiter des aides de l'État. Enfin, j'imagine que c'est ce qu'ils se disent. Maintenant, je suis sur Inter, je suis leur cauchemar. Un arabe payé par l'État pour parler français sans accent, c'est rare. Mais bon, j'ai remarqué un truc, les racistes, c'est comme les Pokémon. Il y en a plein, mais au final, ils connaissent que 3 attaques. Et ce soir, j'aimerais y répondre. La première, et ça, c'est payé avec nos impôts, c'est leur première attaque. Payé, c'est un grand mot, hein, on va en parler justement. Madame Bloch, le salaire des chroniques est bloqué depuis votre premier mandat à France Inter. On a carrément proposé de me payer en francs, il y a un souci. Et le pire, c'est que c'est souvent des gens qui payent pas d'impôts qui disent ça. Tu sais, c'est comme ceux qui critiquent le catalogue Netflix alors qu'ils utilisent le compte de leur cousin. La deuxième, c'est encore un envoyé de Mélenchon. Alors, je sais pas pour les autres chroniqueurs, mais moi, personne m'a envoyé. Hein. Le seul qui a les moyens de m'envoyer, quelque part, c'est Nasser El Khelaifi. Et la troisième, le classique, retourne dans ton pays. Bah, c'est fait, je suis à Radio France. Et les pires, c'est ceux qui t'écrivent ça avec des pseudos chelous, genre Jean-Michel du Nord 89. 89, c'est pas le département, hein, c'est juste qu'il a été banni 88 fois avant pour racisme. Là, on a un nouveau gouvernement, et moi, j'aimerais que Le Cornu nomme un ministre de la haine. Pas pour supprimer la haine, non, pour la taxer. Si tu mets une taxe sur la haine en France, la dette disparaît en 72 heures, et c'est vrai. Et puis, votre parcours, franchement, il est inspirant. Vous avez commencé stagiaire, vous êtes devenue directrice. C'est beau. Moi, j'ai commencé chroniqueur, et je vais sûrement finir stagiaire. Mais au moins, je participe à la diversité des trajectoires. J'ai lu aussi votre enfance à Auneuil, dans l'Oise. Vous dites, j'étais une adolescence craintive, précautionneuse et sombre. C'est fou, parce que c'est exactement le profil psychologique de notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière. Dès que tu dépasses 3 minutes 30.
Avec le sexe,
il change. Ouais, exactement. Et vous avez une phrase qui est magnifique dans votre livre. Vous dites, l'humour politique est vital pour la démocratie. C'est beau. Ouais. C'était aussi la devise de Guillaume Meurice. Et comme vous, il ne travaille plus ici. Ouais, ouais. Cela est dur. Vous expliquez aussi que le groupe Bolloré a construit des machines de guerre contre France Inter, et je vous crois. Bolloré, c'est Thanos avec une télécommande. Ah ouais, il claque des doigts et t'as une rédaction qui disparaît. Après, t'as Pascal Praud, c'est le général. Alors, Pascal Praud, c'est le chargé de communication des anti-France Inter. Tu dis 3 fois Bolloré, il apparaît comme dans Candyman. Et pendant ce temps, Laurence, vous avez tenu la baraque, vous avez résisté à toutes les suppressions. À chaque fois, un ministre, un chroniqueur ou un milliardaire râlait, vous les défendez, vous avez défendu les humoristes comme Gandalf défend les hobbits. Vous dites, vous ne passerez pas, flamme doudoune, faut avoir la référence. Hein. Mais votre livre finit bien, c'est vrai, vous dites ni regret, ni nostalgie, juste la reconnaissance, on dirait le bilan de Macron. Moi aussi j'ai de la reconnaissance parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'il y a des gens comme moi qui peuvent parler à la radio la plus écoutée de France. Et ça franchement, c'est un geste punk.
Merci Ahmed Sparrow et merci à Alicia Vulot à la réalisation de nos best-of. Rendez-vous lundi 16h, alors oui, on sera en vacances mais on vous a laissé quelques petites pépites à déguster à froid, sans modération. À lundi et bon week-end. Zen.